Du vent dans les pages avec Chloé.
Le vieux port, s'il vous plaît.
Du vent dans les pages, à l'assaut de la littérature.
Par la fenêtre du taxi, Marseille défile. Du monde, beaucoup de monde. Je devine des conversations dans une ville où parler est une activité à plein temps. Les accents m'arrivent des terrasses de café. Grimpe des escaliers, remonte le temps, se pose au Fort Saint-Jean, emprunte la passerelle du Mucem, flâne dans le quartier de la Plaine, où les graphes ornent les murs comme des tatouages à ciel ouvert. Les Marseillais siestent, convoquent de l'imprévu, s'offrent un détour par le quartier du Panier. Des plantes plein les rues, des cages à canaris suspendues aux fenêtres, vues sur la vieille charité, sur la mer, sur la major en face à face avec le regard de la bonne mère. Elle, là-haut, tout en or, le blanc du ventre des goélands, le bleu en ligne de mire. Le taxi prend à droite, à gauche, dépasse les couleurs de Noailles, bifurque par-ci, par-là et m'emmène au vieux port.
Du vent dans les pages.
Best of, best of, best of, best.
Oh. On remonte la Canebière. Librairie Maupetit. On s'engouffre dans la plus emblématique librairie de Marseille. 102 ans d'indépendance. Le hall, sur la gauche, des piles de bouquins en cette rentrée littéraire. Je jette un œil. Je remarque des dizaines d'annotations sur les couves. Des résumés, des coups de cœur de libraire, de l'encre, des bouts de papier, toute une histoire. Mais je vous emmène sur notre droite. On prend les chemins de traverse. Un escalier, plusieurs marches, je ne me suis pas non plus amusée à compter, et hop, une galerie. Côté galerie, 8 expos par an. La galerie de la librairie Maupetit, ce sont 120 mètres d'exposition sur la photographie. En ce moment, en gros lettrage, on peut lire le nom du photographe, Abed Abida. Le titre de l'expo, Algéroïde. Des clichés au Polaroid d'Alger. Des instantanés en très grand format. Et de plus modeste aussi. Les images défilent, saisissantes, le temps s'y fige un peu. Des portraits, pas mal de portraits, la lumière d'Alger, ses murs. Une trace fixe de mouvement, c'est tout ça le paradoxe de la photographie. Avec pour ce travail de témoignage, de la pudeur et de la densité.
Dans les pages, photographie.
Le grain Pola des années 60 ajoute de la nostalgie. Et après avoir donné aux rencontres photographiées l'original, c'est sur la version altérée de la restitution du négatif couleur, c'est ça qui est en fait présenté devant nous à la librairie. librairie Mon Petit. Abed Abidar est photographe, mais c'est aussi le fondateur des éditions Images Pluriel. Vous venez, on part à sa rencontre, direction son atelier ouvert sur la rue.
Bonjour.
Bonjour monsieur, je cherche la rue des loisirs s'il vous plaît.
La rue du loisir.
Ah, du loisir.
C'est ça là.
Pardon, là.
La perpendiculaire.
Ah, juste là en fait.
Ouais.
Merci monsieur, bonne journée.
Je vous en prie, au revoir.
Au revoir. Du loisir, du... Alors, numéro 18, c'est en face. 19. On est bien rue du loisir, c'est ça?
Oui, numéro 11 là.
Numéro 11 ici?
Oui.
D'accord, merci madame, bonne journée. Ah ben c'est là.
Oui?
Bonjour.
Venez, venez. Poussez la porte.
Entendu. Bonjour Abed.
Bonjour.
Je referme?
Pour être tranquille, je pense que vous... Allez, venez, venez.
Petit escalier de bois. Plein de photos au mur. Du noir et blanc et pas que. Du portrait et pas que.
Faites attention à la dernière marche.
Allez. Ok.
Pas mettre le ventilatoire, ça fait du bruit. Trop chaud.
Donc là, c'est ton atelier, tu dis.
Alors ici, c'est oui, c'est l'atelier d'Images Pluriel, c'est le bureau en fait, où on travaille. Je dis on parce qu'on est deux, là je me retrouve tout seul. C'est à la fois l'atelier, c'est les bureaux, et c'est l'atelier de confection, de production des expositions et de manutention. Quoi. Voilà. Et c'est un lieu partagé, et ça fait très longtemps qu'on y est, on est très bien. On est dans le quartier de la Plaine, quoi, et c'est pas mal. Voilà.
Du vent dans les pages.
Rencontre avec
Abed Abidar.
À quel moment dans ta vie la photographie est venue? Est-ce que c'est une rencontre? Qu'est-ce qui a été curseur? Qu'est-ce qui t'a amené là?
Quand j'ai découvert la photographie, ça remonte à très 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 longtemps. Hein. On va dire dans les années 90. En fait, c'est la rencontre avec... un animateur dans le quartier qui faisait des ateliers photo, qui nous a proposé de faire de la photographie argentique, parce qu'à l'époque il n'y avait que de l'argentique. Et donc j'ai entamé une formation très poussée dans une école de photo dans les années 90. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment voulu en faire mon métier.
Tu dirais que la photographie, c'est restituer quelque chose de soi au monde? C'est quoi pour toi la photographie?
Qu'est-ce que c'est que la photographie? Je ne sais pas m'exprimer, faire autrement. Quoi. C'est la photo, lorsqu'on m'a présenté un appareil et puis ses animations photo, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, donc quand j'ai démarré la photographie, c'est que je crois que j'ai trouvé le bon outil, tout simplement.
En termes d'influence, je ne dis pas modèle, je dis d'influence qui t'ont précédé ou qui font partie du contemporain et de tes fréquentations aujourd'hui, qui continuent de t'émerveiller.
En fait, c'est une personne qui m'a beaucoup influencé. C'était mon prof de photographie, qui aujourd'hui est décédé. Il m'a tout appris dans la photographie. Technique photo, comment on peut interpréter une image, comment on va aller photographier, c'est tout ça quoi. C'est lui qui m'a tout appris. Donc, et grâce à ce photographe, donc, qui s'appelle Claude Barême, donc au fur et à mesure, donc il m'a présenté aussi des photographes, et notamment un qui s'appelle Joseph Koudelka et un autre qui s'appelle Auguste Sander.
J'entends, tu as reçu une initiation, tu as fait une école pour ton métier de photographe, mais tu as eu un parcours un petit peu plus particulier. Tu viens du quartier des Égalades à Marseille, quartier dans lequel tu occupes une fonction sociale.
Moi, j'ai eu une formation, pour faire plus simple, d'éducateur, de travers social plutôt. C'était à la même période que ma pratique photographique. Il y a toujours eu ce parallèle entre la photographie et mon métier de travers social. Et c'est l'un et l'autre qui ont façonné ma vie professionnelle. Donc parfois c'était indépendamment, donc la photographie avec la photo, mais parfois c'était vraiment mêlé, quoi.
On a parlé encore un bon moment de son travail d'artiste, de l'homme de terrain, de ce passeur de rencontres et surtout de l'autre passion qui l'anime, l'édition. On a pris un café et on a pris le temps de tourner les pages du catalogue d'édition Images Plurielles. Une belle indépendance pour cette photographie contemporaine spécialisée. Oui, la politique éditoriale est à l'image d'Abed Abida. L'humain et l'engagement. Je me laisse apprivoiser par une trentaine d'ouvrages de grande qualité. Un travail remarquable, éclectique. On parle du projet en cours avec Depardon, mais chut, ça c'est encore confidentiel. Publication en noir et blanc pour de nombreux beaux livres de ce catalogue, mais aussi de la couleur.
Avec l'expérience, j'ai dit, bon, on va un peu élargir du noir et blanc, on fait un peu de couleur, mais c'est vrai qu'on gardait toujours les mêmes sujets. C'est un sujet sociaux, travail de mémoire, situation géopolitique dans un pays, un problème écologique. Voilà, je donne un exemple. Mireille Lou, photographe qui habite à Arles, qui nous montre un projet photo avec des images en 3D. Alors, premièrement, c'est quelque chose qu'on ne fait quasiment jamais. Donc, il y a tout un travail qui se fait autour de la transformation des couleurs pour l'édition d'un livre, qui est extrêmement compliqué. Et lorsqu'on arrive à faire ce travail-là, on est extrêmement content et on a réussi à... Et puis, le sujet n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement, parce que c'est quelque chose de très poétique. Il y a des portraits, il y a des enfants, il y a du texte aussi, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement.
Le travail d'éditeur, c'est un travail qui évolue, tu l'as dit, avec des prises de risques, de l'audace. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ?
Aujourd'hui, pour pouvoir présenter un livre photo, il faut le présenter différemment. Quand je dis présenter, c'est la manière dont on le fabrique et dont on le conçoit. Parce qu'aujourd'hui, il y a autre chose, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de livres qui se fabriquent, de plus en plus de livres dans les librairies, et il y a de moins en moins d'espace et de place consacrés aux livres photo.
Mais toi, tu dis livre photo, tu dis pas livre d'art.
La catégorie, c'est... Enfin, nous, on fait partie du beau livre, et dans le beau livre, il y a des sous-catégories. Bon, il y a les livres d'art, tout ça, moi je dis livre photographique.
Et depuis toutes tes années d'activité d'éditeur à Images Plurielles, est-ce que le monde de la photographie s'est modifié ?
Il y a eu la démocratisation de la photographie à cause du numérique. Il y a aussi cette nouvelle génération de photographes, ces jeunes photographes qui arrivent et qui apportent une autre façon de photographier avec un autre regard photographique.
C'est un autre regard photographique ou c'est quelque chose qui est plus conceptuel ? Qu'est-ce que tu entends par là ?
Et c'est les deux. Un autre regard, ça veut dire que c'est une autre façon de concevoir l'image et d'interpréter l'image. Parce que les nouvelles générations qui arrivent, ils ont eu une éducation différente de la nôtre. C'est tout, c'est la manière de photographier, c'est l'approche aussi. Durant ces 20 dernières années, ça a énormément évolué. À la fois technique, mais aussi par rapport au regard du public, au regard des photographes vis-à-vis de la photographie et de l'image.
Du vent dans les pages.
Best of. Best of. Best of. Best of. Best of.
premier étage, le casino. Deuxième, la plage.
Singing is just talking to a tune. It's trying to convey something desperately to communicate with the added use of futile music. I'm pretty sure you never understood a word I said. Still I'm pinning all my sentences on melodies instead. This one struggles with structure, it wonders in its rhyme and its reason. They never got me nowhere in my season and time.
Petit geste familier pour s'apprivoiser un peu. Pied qui balance, rire, parce que Victor est un artiste complet, très avenant et chaleureux, ouais, accessible. On était prêts, on a rembobiné nos pas. Retour au ventre de la galerie, édition et librairie Zoem. Bruit de pas, étage, bruit encore et puis silence, ça tourne. Un vieux parquet qui grince, des marches en demi-niveau ouvrant sur un parcours d'escalier en mezzanine. Remarquez, on monte souvent d'ailleurs pour trouver un bon espace de parole. Voilà, Victor Martinez me précède. Je suis dans son dos, alors je peux affronter une rapide présentation. Il a plusieurs vies en une seule, il faut plusieurs doigts, au moins quatre pour énumérer les cordes à son arc. Poète, traducteur, essayiste et chercheur en langue, il enseigne la littérature et civilisation française à la Sorbonne. Penser et créer, créer sa pensée, je le regarde fort. Et comme tout artiste, ce qu'il donne à lire aujourd'hui, son recueil « Détruite enfance », est à l'image de l'homme qu'il est. Une terre de contraste où pousse une poésie au parti pris littéraliste, sans arrière-plan métaphysique, nu si vous préférez, degré zéro quoi de l'ornement, abstraction, signe passé sous silence, poésie de l'urgence pour repenser le monde, même pas d'ailleurs pour en effacer l'essence, là où niche, recroquevillé sur lui-même, le coupant, le resserrer, le refus nécessaire, quand on a tourné le dos aux formes, quand l'os même de la langue ouvre sur une autre crise possible. Entendons-nous bien, le job de Victor, c'est tout ça. Interrompre le récit, regarder dans l'ailleurs des choses, mutiler l'écriture, la parole frontale pour requalifier. Question alors, qu'est-ce qui résiste à tout cela? Son texte? Victor dit que le poète est celui qui refuse de parler. Alors il est tout de même partant pour un tout petit bout d'entretien et vous savez quoi? L'entendre est une autre manière de commencer à le lire.
À l'origine, l'enfant. l'enfant remplacé d'être sans origine, d'avoir reçu un nom et une histoire qui l'ont séparé de lui-même et maintenu dans la cassure de cette séparation.
Les premières années, la cassure est fraîche, donc belle. Sa vie consistera à se séparer des noms qu'on lui a donnés.
Du vent dans les pages. Rencontre avec...
Victor Martinez, Détruite enfance, Zoé.
Victor Martinez, bonjour.
Bonjour Chloé.
La rencontre avec la poésie, comment ça s'est passé dans ta vie ?
Ça s'est passé par l'enfance et aussi par les formes muettes qui étaient autour de moi, qui étaient des paysages, qui étaient aussi des personnes pour lesquelles je trouvais qu'il manquait des voix. Et dans la poésie, j'ai trouvé cette manière de faire parler les choses muettes qui en fait en disent parfois plus que les choses parlantes.
Et est-ce que tu as reçu l'enseignement d'un choc particulier, un poète, un écrivain ou complètement un autre médium d'ailleurs ?
C'est essentiellement par des lectures personnelles, des lectures sauvages. Après oui, effectivement, il y a des noms. Hein. Il y a des noms connus, des noms moins connus, mais c'est par des auteurs, Jacques Dupin, André Boucher, Paul Celan, enfin des grands classiques, que je suis entré plus dans l'écriture que dans la lecture.
Est-ce que tu as fait, en dehors de ton métier, on y reviendra aussi, tu as plusieurs casquettes, mais l'idée c'est, est-ce que tu as fait une école particulière dans ta formation ?
Alors, les écoles ou l'école, je les ai traversées. Je pense avoir fabriqué ma propre école. Alors, c'est pas prétentieux, hein, mais je suis dans une autre tentative différente d'autres écoles. Et donc, effectivement, je ne me suis pas reconnu dans les écoles, même si j'ai beaucoup appris.
Justement, l'idée, c'était de t'amener vers ce paysage-là de toi. C'est de dire absolument que tu n'es pas quelqu'un de formaté. Donc, qu'est-ce que tu dirais sur ton travail ou sur toi ?
Alors, qu'est-ce que je dirais sur mon travail ? Sur moi, c'est difficile, parce qu'on n'est pas objectif, je n'ai aucune idée, en fait. Je peux parler longtemps. Je dirais que c'est une poésie traversée par l'élément, par des formes, à la fois par des surfaces calmes qui sont le lieu de la fissure, le calme et le lieu de la fissure et du détruit. Et ça m'intéresse beaucoup parce que ça parle de nous.
L'univers de la fissure, des interstices, des cassures, des séparations qui sont le thème aussi aujourd'hui, qui à nouveau saisissent ton œuvre, de l'enfance. Tout ça, ce sont des thèmes, mais c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps dans ton parcours comme une trace.
Que dire, ce sont les formes du muet, les formes du silence, les formes de ce qui est séparé. Ça va effectivement de l'enfant à des lieux, ou à des qui relèvent de formes de l'histoire aussi. Ça renvoie aussi à des formes de l'histoire qui sont oblitérées. Et donc il faut parler, mais depuis le retrait toujours. Il faut donner à la langue la forme qui convient, qui va exprimer la chose.
Justement, tu fais un gros travail sur cette forme dans la langue. Est-ce que tu pourrais essayer de vulgariser un peu ça?
Alors, je pars d'idées très très simples, c'est-à-dire que dans les apparences autour de nous, ou même dans l'intériorité, dans leur forme lisse, dans leur forme calme, dans l'extrême familiarité avec les choses, eh bien, j'entends un vacarme. Et donc, je ne sais pas d'où ça vient. Je pense, si on peut imaginer que ça vient de... Bon, c'est pas une histoire personnelle, hein, ça vient de l'histoire. Et donc mon travail, c'est de se porter à des interstices, à des lieux de fêlure, et d'entendre justement, dans la surface calme, une explosion muette, par exemple. Donc je travaille, ce ne sont pas des paradoxes, hein, je travaille sur cette violence invisible qui travaille nos corps, et la vie en général.
Et tu donnes aussi à lire quelque chose avec le sens, tout en effaçant cette donnée-là.
Alors, il y a, c'est un peu le travail de la poésie. La question, c'est est-ce qu'on introduit la circonstance, d'accord ? Est-ce qu'on nomme les choses directement, les lieux, les personnes ? Ou est-ce qu'on laisse la forme se porter à la hauteur de la chose et en être comme l'écho ? Dans une grosse partie de mon travail poétique, je fais ça. C'est-à-dire que, comme les choses muettes, je tais dans la forme l'événement. Mais c'est une manière de le préserver, de le rendre encore plus aigu. C'est paradoxal, mais c'est ma manière de faire.
Donc il y a une tension dans ton travail. Hein,
voilà, c'est vraiment sur la tension. Il y a une tension une tension des formes, une tension des figures. Il y a de l'insupportable. Il y a une férocité aussi du travail de l'homme. Cette férocité dans la manière renvoie à d'autres choses que je ne nomme pas. Alors il y a une autre partie de mon travail où je nomme, hein, mais c'est autre chose, c'est tout récent et c'est autre chose.
Dans cette férocité, il y a l'idée toujours des pleins et des vides.
quelque chose que tu retires plutôt qu'enlèves, et quelque chose que tu que tu composes. Voilà, c'est ça peut-être. Mm-hmm. Une idée de la composition autrement.
Oui, c'est-à-dire que je pense que j'utilise la langue, enfin j'utilise la forme du poème pour séparer les mots des choses et pour montrer le hiatus, pour montrer que les mots ne disent pas les choses et que c'est dans une tension que peut-être les mots diront les choses. Donc il faut retirer, maintenir la tension, maintenir la séparation et laisser faire la violence de la forme, son caractère détruit et intact à la fois. C'est spécial.
Et laisser faire, ça veut dire, par exemple, on va prendre la technique maintenant de l'écrivain, du poète. Est-ce que, par exemple, laisser faire, c'est ce travail entre la rigueur de l'écriture et en même temps te laisser, disons, être réceptacle? Comment tu jongles, toi, avec cette double tension, tu pourrais prendre?
Alors, c'est une bonne question parce que, oui, effectivement, la rigueur de l'écriture, c'est un travail et ça met des années à aller vers, à réussir à toucher ce qu'on ressent. Donc, comment je fais? Il faut rester sur une tension et la naturaliser. Il faut naturaliser la violence petit à petit lui donner une expression qui soit humaine. Et ça, c'est très difficile.
Est-ce que tu te plies à des rituels d'écriture? Genre, est-ce que tu écris tous les jours, Victor, ou pas du tout? Comment tu procèdes?
Personnellement, très longtemps, c'était le matin, mais là, je ne sais pas si c'est l'âge, mais j'écris de moins en moins, très peu, par période. Après, je peux travailler ce texte-là, je l'ai travaillé pendant 10 années. D'autres textes, il y a un livre que j'ai fait en une semaine. Il n'y a pas de règle. Je suis dans une recherche en ce moment.
Est-ce que dans ta pratique d'écriture, tu as besoin de lire aussi, d'être traversé par les lectures, les influences?
C'est essentiel, c'est fondamental, c'est absolument essentiel. Il faut rencontrer, il faut travailler, il faut lire, il faut relire. Il faut se porter à ces formes que sont les œuvres et il faut les entendre mieux. C'est permanent. Il faut reconsidérer chaque œuvre comme le lieu d'une crise. Il faut essayer de comprendre, d'entendre et d'en tenir la mesure. C'est ça le plus difficile. C'est quasiment musical. C'est comme tenir un fa dièse le plus longtemps possible.
Alors l'idée de la performance, c'est quelque chose qui est important aussi dans ton monde?
Alors on peut entendre le mot performance de plusieurs manières. Pour être très très clair, je ne fais pas de performance au sens artistique, aujourd'hui du terme. Je ne suis pas acteur, je n'ai pas l'habitude, je lis très peu. En revanche, je considère que la parole est en soi une performance. C'est-à-dire que la syllabe est une explosion. C'est une performance de la langue dans la langue elle-même. Donc dans l'écrit, il y a déjà une performance. C'est peut-être une excuse pour moi, mais voilà, je me positionne comme ça par rapport à la notion de performance.
Et il y a ton travail d'artiste, il y a ton travail expérimental d'artiste, et il y a aussi ce côté de toi qui est un peu moins connu, qui est la recherche et tout ce que ça comporte de penser autour de ça. Déjà, comment tu fais pour cette porosité entre ces deux univers-là et qui te constituent? Et après vient aussi la question du bilinguisme. Tu es aussi habité par encore d'autres voix.
Alors la question, on va dire, du métier, donc c'est effectivement un vrai problème. C'est-à-dire, j'ai toujours détesté les profs poètes. Alors, il se trouve qu'à la fin, j'arrive à être un peu ça. Moi, j'ai toujours aimé des poètes qui n'étaient absolument pas du tout professeur. Donc j'essaie d'envisager l'enseignement de la manière la plus franche possible et je parle des œuvres comme des lieux de crise et non pas comme des lieux de, comment dire, des réceptacles d'une histoire prestigieuse, d'une langue mythique. Donc je mets l'étudiant, l'élève en face de l'œuvre comme une crise à nommer. Et là je peux nommer, je veux dire, j'ai deux citations en tête, une de Hölderlin qui pose la question: à quoi bon des poètes en temps de crise, dit Hölderlin. Le poète André Duboucher y répond 150 ans plus tard, il dit: mais tous les temps sont des temps de crise, il y a quelquefois des poètes.
Du vent dans les pages.
Best of, best of, best of, best of.
I've been having deja vu of all our rendezvous, soaking up the melanomas in our coffee colas, and my eyes have started to wear, 'cause it's been a long day learning to let go with your head in the clouds, cause you said you didn't ever want to come down, and I should get some sleep. Cause you, honey, you got a little bit of something that I can't get enough, and I think I want to talk a little longer, longer tonight. Cause only when you're with me I get a little dizzy and blurry like the sea spray living on my windscreen. Love me longer tonight. Love me longer tonight. Laying in the bed, wrapped up in a white sarong, looked like heaven, and I didn't know what I did wrong to let go of a loving like yours. And every time you sing, I swear you remind me of the honey on the teaspoon that drizzles down into the tea. So smooth and sweet. Cause you, honey, you got a little bit of something that I can't get enough, and I think I wanna talk a little longer, longer tonight. Cause only when you're with me I get a little dizzy and blurry like the sea spray living on my windscreen. Love me longer tonight. Love me longer tonight. Laying in the bed, wrapped up in a white sarong, look like heaven, and I didn't know what I did wrong to let go of a loving like yours. And every time you sing, I swear you remind me of the honey on the teaspoon that drizzles down into the tea. You, honey, you got a little bit of something that I can't get enough, and I think I wanna talk a little longer, longer tonight. Cause only when you're with me I get a little dizzy and blurry like the sea spray living on my windscreen. Love me longer tonight. Come on and love me longer tonight.
Du vent dans les pages.
Best of, best of, best of, best of.
C'est un cirque comme j'avais jamais vu. Il y a un plaisir de l'imperfection humaine. Il y a un plaisir de. Il y a quelque chose qui. C'est, évidemment, il y a des performances, mais on n'est pas. Au fond, c'est très étrange comme ils arrivent à manipuler le ratage à l'intérieur de ces performances. Comment la mise en scène fait que, évidemment, ils racontent l'envers du décor. Et donc, il y a une troupe qui n'est pas une troupe d'êtres parfaits, d'être. Au contraire, chacun apporte quelque chose de très étonnant. Ils ont une façon d'être en public. Et d'ailleurs, on l'a vu ce soir encore, c'est-à-dire. Dont le public se régale parce qu'il y a quelque chose d'étrange. Ce n'est pas un beau spectacle, c'est plus que ça. C'est une sorte de performance sur la chronique de l'homme imparfaite. Et donc, tous ces personnages, ces corps qui se du petit au grand. La musique est magnifique, les musiciens sont absolument époustouflants. Donc ça donne une sensation que tout ça est fait de briques et de brocs complètement improvisées. Et je crois que vraiment, je ne suis pas le seul dans le public qui a eu un choc. Et puis une jubilation, quoi. Une jubilation de. Et parfois, dans le cirque, vous savez, il y a le goût de la performance pure. Et là, il y a des performances, mais elles sont faites de telle façon qu'au fond, nous, le public, on y est associé. On a l'impression de. Non, j'étais vraiment transporté par cet univers. Magnifique. Regardez les deux chevaux qui font presque rien. Même le premier qui rentre, qui ressort, il n'a rien fait. Est-ce qu'on n'a jamais vu ça au cirque? Mais oui, on le voit là. C'est-à-dire que tout d'un coup, on ne sait pas. Après, comme il cultive quelque chose, comme un cheval entre, ne fait rien et ressort. Alors on se dit, bah, ça peut, tout peut arriver. Il y a un personnage qui est là et puis il ne bouge pas. Quelqu'un qui chante une chanson sur le bord. Donc voilà, il y a un tapis qui se déplace et ça devient un spectacle. Donc il y a quelque chose de vraiment fantastique dans cette mise en scène et d'un grand raffinement pour moi, parce qu'elle ne cherche pas à nous impressionner de performance, mais au contraire, elle cultive tout ce qu'il y a de plus beau dans l'humain, c'est-à-dire,
juste
imparfait, pas toujours à sa place, des corps qui nous racontent tellement de choses, parce que ces corps sont tellement différents, c'est tellement beau de voir ces corps... Puis ces deux gros chevaux qui arrivent. Bon, enfin voilà. Donc j'ai vraiment.
Et l'harmonie d'absolument tous ces contraires qui se croisent, qui se parlent, qui dialoguent.
Absolument. Et l'harmonie et la disharmonie et ces espèces de leçons d'équitation absolument lamentables, quoi. C'est très drôle. Il n'y a pas plus mauvais professeur. Je trouve c'est plein de poésie, d'une grande poésie. Qui ne cèdent pas à aucune facilité. Et en même temps, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas où ils vont. Et les enfants, on se laisse emporter parce que ça donne une joie, une jubilation aux enfants. Et donc ça, c'est là. On est vraiment dans la magie du cirque.
Ouais. Et on est juste heureux d'avoir croisé leur route, en fait.
Ah oui, c'est exactement. Ah oui, là, ils vont partir.
Et quelle audace dans la programmation, alors.
Ah oui, merci. Merci au public d'être là, parce que c'est vrai que nous, on a fait une programmation qui est très riche et qui est très risquée, parce qu'on a voulu laisser le moins de monde sur le côté de la route. Mais le public est là malgré ça, et donc vraiment, donc j'espère que ça va continuer comme ça, c'est une rentrée fabuleuse.
Davaï.
Ouais, merci.
Allez. Merci beaucoup,
merci
Charles.
Merci à vous.
Best off.
Bonjour Macha.
Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, merci.
Et voilà. Je te laisse Jérôme, jusque j'arrive au musée. Je t'embrasse. À très vite. Monsieur Deschamps.
Alors on arrive ensemble.
C'est formidable. Vous allez bien?
Oui, ça va. Et vous alors? Avec toutes ces répètes.
Oui, c'est là où on met tout et on monte le décor. L'essentiel est là. Beaucoup de mercredi soir, c'est très vite. Demain on fête.
Donc les caisses sont déballées.
Ah oui, c'est le décor est déjà en place.
Déjà
j'ai un
régisseur
général qui est formidable. Et une fée. Il n'y a pas de fée au masculin. Je devrais inventer fée au masculin. Un fée. Allez, c'est un fée. Parce qu'elfe, c'est autre chose.
Donc là, on rentre dans le palais avec Macha. Chloé, Stéphane.
Voilà.
Je
vais
faire un reportage et après j'ai plein d'étudiants.
En attendant,
c'est génial.
Oui.
Vous allez bien?
Oui,
puis
vous voir, ça me fait toujours plaisir.
Oh, ça c'est gentil.
Un peu de gel sur les mains et on y va.
Écoutez, déjà trop sa carte d'identité.
Ah, génial. Je suis ravie.
Ben oui, non, c'est vrai.
C'est vrai.
Alors,
je sais, vous êtes bien, hein. Je vais laisser les paquets.
Oui, écoutez, bien. Merci pour les vidéos. C'est vraiment apprécié.
C'est vrai que vous avez aimé?
Ben oui. Mais tu connais après la côte, en fait, j'avais compris pourquoi les cheveux, tout ça, voilà.
Et voilà.
Bien sûr, je vous explique.
Je suis avec plaisir. Je vous laisse mon bagage.
Merci.
Merci infiniment.
Best of. best of, best of, best of.
Il y avait les récits de mes grands-parents russes blancs, notamment ma grand-mère, Olia, qui me racontait le chaos russe, la révolution, la perte des choses, des êtres. Et j'imaginais tous ces objets un peu comme ça, flottants, et pourquoi ils avaient emporté ça et pas ça. Et puis ces objets qu'on avait échangés, qu'on avait perdus, qu'on avait égarés, qu'on nous avait volés, toutes ces choses, ces récits. Et ça a commencé comme ça, parce que ils n'en parlaient pas dans la journée, jamais, mais le soir, ma grand-mère hallucinait toute seule dans sa chambre avec une cigarette interdite, mais une cigarette et ses cheveux défaits me racontaient ça. Récits, la fiction est venue comme un héritage. Et à cause de ces récits-là, il m'a fallu, moi, désormais aussi, pour supporter tout ça, je me rendais compte qu'elle racontait et que moi aussi, j'allais me sauver de plein de choses dans mon enfance difficile en racontant. Et je fais se croiser, bien sûr, l'histoire qui a eu lieu, qui aurait eu lieu, qu'on m'a racontée et que j'ai ressentie, et celle qui est déjà une fiction. D'écouter seulement, quelque chose se transforme. Et après tout, le théâtre, c'est ça aussi. Ce que l'on propose, ou comme ici, ce récit que j'appelle le récit mobile, où c'est le spectateur qui bouge, c'est précisément la part, le pas de l'imaginaire de l'autre qui fait que les choses se transforment. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et à chaque fois, ce qui m'intéresse dans la peinture, ce qui m'intéresse dans, vraiment quand je suis face à une œuvre, c'est cette part de cette bonne distance que nous propose l'artiste pour aller vers son imaginaire, mais en transportant le nôtre aussi. Et cette chimie-là me paraît, moi, mon ombre sacrée. Théâtre immobile, ce sont des arts plastiques après tout, et on y entre soit, bien sûr, par une forme de l'intelligence, pourquoi pas, s'il y a du texte, il y a un chant, on entend on peut percevoir le sens des mots, mais après tout, c'est plus tactile que ça, c'est plus sur la rétine, c'est plus dans les os, il y a plein de résonances de l'ordre de l'émotivité presque. Et ça déclenche chez celui ou celle qui regarde ou celle qui écoute quelque chose d'une vibration très corporelle. Et l'imaginaire est très incarné aussi de ce point de vue-là. C'est ça qui m'intéresse, c'est cette vibration-là.
Thank you. au rêve d'un autre.
Those animal crackers in my suit.
Bien sûr que tout commence par quelque chose qui s'est brisé, qui s'est perdu, qui est violent, qui a bousculé les êtres et cassé quelque chose. Et c'est pour ça aussi que sur une des bergères, il y a un costume de cantatrice complètement défait. C'est très beau l'usure aussi, c'est très beau. Ma grand-mère avait emporté de Russie très peu de choses puisqu'elle était elle-même officier, mais elle avait toujours emporté des fragments de tissu, comme si c'était par les tissus qu'on racontait comment était le monde avant. Donc je suis très sensible bien sûr au tissu, elle m'en avait offert quand j'étais toute petite. Alors il y a les deux thématiques, bien sûr toujours les reliques, et aussi bien sûr les choses de l'enfance. Alors là évidemment c'est une enfance fracassée, parce que dans ma famille on a laissé 4 enfants... qui étaient mes oncles et tantes en Russie, dont on n'a plus jamais eu de nouvelles, qui ont été perdus, comme on dit, dans la Révolution, dans la guerre civile. Et donc, sans arrêt, je les transporte aussi avec moi et j'essaie voilà, de raconter ça, mais sans jamais être solennel.
Enfant irréductible est là, incluse en moi, et ma vie passe et la petite fille en alerte demeure, vigie de mes rêves, de mes actes. Elle impose la marche des choses, l'intrigue de mes jours, elle est ma douleur et ma grâce.
Ce monde où j'allais ne t'accueillait pas, tu n'avais pas de place dans la ronde. Nous serons, toi et moi, des enfants inconsolables et méfiants. J'ai maudit le saccage, l'inutilité de cet arrachement. Séparés de toi, j'ai compris que nous étions l'un et l'autre deux petits mortels. Comme estrade, tu dirigeais un orchestre imaginaire, carré rouge terrible, d'où tu te laissais tomber. Cette petite fille intacte, enfant irréductible, est là, incluse en moi, et ma vie passe et la petite fille en alerte demeure, vigie de mes rêves, de mes actes. Elle impose la marche des choses, l'intrigue de mes jours. Elle est ma douleur et ma grâce.
Double Fête a été imaginé en même temps que Lewis versus Alice, d'après l'œuvre de Lewis Carroll. J'ai aussi invité Georges. Et Georges Et j'ai appelé Lewis, Georges et la petite fille, parce que je pense que nous sommes cousus tous les trois. C'est-à-dire que Lewis, le grand poète, après tout, a raconté le scandale qui était d'avoir grandi. Il fait dire à Alice, mais quel âge avez-vous, Alice? On lui entend, alors elle dit, j'ai 7 ans et demi. Elle dit, 7 ans et demi, mais non, il fallait que ça s'arrête à 7 ans, c'est trop tard, mais trop tard, trop tard. Et on lui fait même savoir que c'est pas tout à fait sûr qu'elle existe, puisqu'elle est dans le rêve du roi. Georges, c'est ce petit garçon qui a sombré dans une psychose infantile à 4 ans, sous mes yeux. C'était mon petit frère, mon premier compagnon de jeu, et qui lui aussi écrit sans arrêt le même récit d'une petite fille qui se perd, qui n'est pas accompagnée, qui est perdue dans la forêt et qui est en danger. Et voilà que je les invite tous les deux, parce que je pense vraiment que la petite fille, c'est un transgenre. C'est-à-dire que c'est un point de vue définitif, extrêmement exigeant, que l'on a enchâssé en soi et qui fait qu'on regardera toujours le monde depuis ce point de vue très exigeant. Et elle est assez impérieuse, cette petite fille qui est ancrée en nous. Et il y a des êtres, que ce soit un poète du 19e siècle ou que ce soit un jeune homme qui a vieilli mais qui est resté un enfant éternel, que ce soit ces êtres-là ou moi quand je fais du théâtre, nous sommes à cet endroit-là, vraiment, dans un transgenre. L'alerte depuis la petite enfance, depuis justement le drame de mon frère et depuis aussi ce que j'ai ressenti à ces moments-là de ma vie qui ont été assez cruels. Évidemment, j'ai toujours le sentiment qu'il fallait rester en alerte et j'ai longtemps perdu le sommeil et j'avais toujours l'impression que c'était pour ça que le décor de Lewis était comme ça, que la maison n'avait pas de toit et que je ne serais plus jamais vraiment protégée.
Ce chaos de l'enfance a donné le désordre de mes rêves actuels, mes impatiences, mes chemins de traverse néfastes et douloureux où je me perds. Un dimanche, on m'avait coupé les cheveux courts. Les longues mèches tombaient dans une serviette posée au sol. Georges a pleuré. Un bout de soie de son corps, c'était mort ou vivant. À qui ça appartenait à présent? Ça se jette les cheveux. Je les ai enterrés dans le jardin. Et puis, on détestait retirer nos souliers. On résistait chaque soir au coucher. On les a parfois remis dans le lit pour tous.
C'est un jeu un peu dangereux d'être enfant. C'est pas un chemin de rose. C'est pas confortable l'enfance, pas du tout. C'est très exigeant parce que c'est souvent cruel. Vous voyez, c'est des choses que je veux absolument partager, qui sont évidemment une part intime de ce qui constitue ma vie, mon quotidien et ce qui s'est construit, mais c'est aussi une proposition à l'imaginaire de l'autre. Le corps des autres, la déambulation des autres, ça me... C'est en vue de cette rencontre que ça m'intéresse. Les gens que j'admire nous montrent la voie de ce point de vue-là. Tous ces peintres qui vous disent « Mais oui, c'est parce que ça a goûté que du coup la vie est arrivée à la surface de la toile. » Voilà, il faut avoir aussi cette modestie-là de laisser les choses faire et se faire.
on voit un grand chaos d'objets que je trouve beaux, assez 18e, qui sont un mélange de choses que j'ai trouvées dans les caves du musée et des accessoires d'opéra et de théâtre et mélangés. Et j'invite l'église, j'invite Georges, mais j'invite aussi plein d'animaux. J'aime beaucoup l'idée des artistes, des animaux artistes ou des artistes animaux. Et puis là, j'ai posé ce qui est un peu le triomphe du plastique. Donc j'ai accroché les costumes là-haut. Ici ou là, vous avez des vitrines aussi avec des reliques. La récolte, c'est déjà un état un peu passionnel, comme ça, un peu fou, un peu presque mystique. Et puis là aussi, quand je pose des objets, il y a quelque chose, une sensation, enfin, quelque chose qui me prend de très étrange. Comme la fantaisie l'emporte toujours et qu'on reste pas quand même dans des récits redoutables, dans la salle se promènent des phrases de Lewis Carroll sur l'âme des animaux, sur par exemple « Est-ce que Dieu aime les lièvres ?» Voilà, je trouve que c'est quand même une question fondamentale. « Est-ce que Dieu aime les lièvres ?»« Est-ce que Dieu aime les lièvres ?» C'est quand même une question fondamentale. Question fondamentale. Est-ce que Dieu aime les lièvres ?
Coupez, mademoiselle. Et choisissez 9 cartes de la main gauche. Vous n'êtes pas encore sorti. Le jeu parle mieux quand la consultante sort. Ah, vous voilà. Je préfère. Voyons le passé. Et c'est vous qui êtes là.
Et alors, pourquoi suis-je là?
Le jeu est difficile, compliqué. Je ne vois pas très bien. Il faudrait en faire un autre. Coupez, s'il vous plaît.
C'est quand même une question fondamentale.
Coupez.
C'est quand même une question fondamentale.
Coupez, s'il vous plaît.
Technique et à la BO, Stéphane Joly. Au voix off, François Nicolas. Merci à tous les Marseillais qui ont croisé notre route aujourd'hui.